Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
Parole de femmes.
Au Togo, plus de 200 000 femmes inscrites dans des groupements en lien avec l'exploitation des noix de karité s'activent dans les régions de production après 2 ans de ralentissement dû à la Covid-19. L'espoir renaît pour ces femmes rurales aux revenus précaires. Un reportage de notre correspondant à Lomé, Kossi Wousou.
Dans la préfecture d'Est Mono, dans la localité de Lavagnon, Hélène Yawavi ne perd plus de temps. C'est la période pour le ramassage des noix de karité. Ensemble avec les 10 autres femmes de son groupement dénommé La Grâce, elle compte s'investir davantage malgré les dangers qui les guettent souvent.
En ce moment, les noix de karité tombent déjà. Nous allons donc en brousse pour le ramassage avec tout ce que ça comporte comme danger. Les morsures de serpents, les piqûres de scorpions et bien d'autres désagréments. On nous soutient avec une ou deux bottes, mais c'est insuffisant. Mais nous continuons. Depuis qu'on s'est regroupé en coopérative, ça va pour nous. Grâce à cette activité, beaucoup de femmes arrivent à mettre leurs enfants à l'école et à subvenir aux besoins de la famille.
La restructuration de la filière est l'œuvre de Elisabeth Tchala à la tête de la Fédération interprofessionnelle de karité du Togo.
Pour moi, c'est une fierté de les voir aujourd'hui sortir de la pauvreté, d'être autonomes. Vous verrez les femmes, comment elles font pour faire que le karité devienne un produit, non seulement qu'on peut manger, mais aussi dans les cosmétiques. Le district du karité au Togo a devant lui un bel avenir et ce sera un exemple pour les autres filières.
Le beurre de karité n'est pas à l'abri du changement climatique car ils font à la moindre chaleur. Les arbres producteurs de noix de karité aussi disparaissent chaque année. L'État vient de lancer le 1er juin une vaste campagne de reboisement dans tout le pays. L'Alliance globale de karité prend elle aussi des mesures. Simbala Sila, président de l'AGK.
L'AGK, l'Alliance globale de karité, a mis en place un fonds qu'on appelle Fonds de restauration des parcs à karité. L'objectif majeur de ce fonds, d'abord, c'est de protéger les parcs, les arbres que nous avons déjà, de passer par la sensibilisation, la communication, l'information pour qu'on les protège parce que c'est la ressource principale aujourd'hui que nous avons. Et deuxièmement, on veut aussi planter des arbres. Notre objectif aujourd'hui est de planter 10 millions d'arbres sur les prochaines années à venir.
Pour le moment, la cagnotte n'est garnie que de 47 000 dollars pour une plantation de 10 000 arbres. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Les Nigérianes constituent l'un des plus grands groupes de victimes du trafic sexuel, selon les Nations Unies. Triste constat sur le fléau, de nombreuses femmes sont également impliquées dans ce genre de crime. Timothée Obiezu à Abuja nous en dit plus sur les femmes qui exploitent d'autres femmes.
En 2014, Latifa Ayodele a été invitée par une parente à se rendre en Malaisie pour poursuivre ses études. Mais la nouvelle vie qu'elle imaginait l'a presque détruite. Nous n'utilisons pas son vrai nom pour protéger son identité. Quand Ayodele est arrivée en Libye après un voyage pénible, elle a été prise par une tenancière et forcée à se prostituer.
Ils l'appelaient Ilux. C'est dans ces Ilux qu'ils nous ont disposés à l'intérieur, à l'arrière.
24 personnes étaient assises à l'arrière et à l'intérieur, 8 personnes. Nous nous sommes juste pliés à l'intérieur comme ça. La femme a pris un autre Hilux afin que nous ne lui posions aucune question.
James n'est jamais arrivé en Malaisie, mais est resté en Libye, a travaillé comme esclave sexuelle pendant 4 ans jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper. L'Agence nationale nigériane pour l'interdiction du trafic humain, NAPTIP, affirme que près de la moitié des suspects arrêtés pour trafic d'êtres humains en 2019 étaient des femmes, généralement des femmes plus âgées qui attirent et trafiquent d'autres femmes.
Tout le monde est en fait impliqué, hommes et femmes, mais quand vous regardez la dimension internationale qui a surtout à voir avec l'exploitation sexuelle, vous découvrirez que ce sont surtout les tenancières, les femmes qui sont les principaux auteurs. Mais elles utilisent aussi les hommes pour amener ces gens.
Esther Okafor, qui n'est pas non plus son vrai nom, a été victime de la traite vers la Libye. Après près de 2 ans comme esclave sexuelle, elle a réussi à s'échapper vers une église catholique où elle a été secourue par l'Organisation internationale pour les migrations et rapatriées au Nigeria. Mais elle était déjà enceinte de 5 mois.
En Libye, l'avortement est comme un crime. Tu peux aller en prison pour ça. En plus, je n'étais pas stable financièrement pour me faire avorter. Parfois, quand je la regarde, je pleure.
La NAPTIP dit qu'il est difficile de déterminer le nombre exact de cas de trafic sexuel au Nigeria, car beaucoup ne sont pas signalés. Mais un groupe à but non lucratif créé par un ancien directeur de la NAPTIP permet aux victimes de signaler des problèmes de traite et d'autres formes de violences sexistes.
Nous renvoyons des cas comme celui-là à la NAPTIP pour les affaires de contentieux pénal où il est possible d'attraper leurs trafiquants. Mais parfois les victimes ne savent même pas qui sont leurs trafiquants. Elles ne peuvent pas vous donner d'informations et donc nous leur donnons juste un soutien psychosocial et nous les réhabilitons.
D'après les experts, les victimes porteront des cicatrices psychologiques de leur épreuve pour le reste de leur vie.
Goma, capitale du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, a accueilli le 9 juillet dernier pour la première fois le Fashion Show qui en était à sa 3e édition cette année. Cet événement a réuni des professionnels de la mode au niveau local et de la région des Grands Lacs pour valoriser la femme africaine. Les détails avec notre correspondant Zanem Netizaidi.
Pour cette 3e édition, les organisateurs ont réuni 25 mannequins venus de Goma, Bukavu et Gisenyi au Rwanda. C'est un tremplin pour qu'UVEL s'est lancé dans l'univers de la mode professionnelle. Ganza Samapanza, venu de la République centrafricaine, est parmi les stylistes invités. Ses créations veulent prôner la parité et montrer la place importante de la femme dans la société africaine.
La femme a une place. La femme est une pièce maîtresse dans la vie de l'humanité. Alors, pourquoi faire du mal à une femme? Pourquoi violenter une femme? La femme, c'est celle qui donne vie. En fait, la femme, c'est la vie. Je suis très contente pour ce défilé de mode qui parle de la femme.
La Fashion Show est pour l'équité, l'autonomie et la valorisation de la femme et lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes par les biais d'un défilé de mode. Au-delà de demander le soutien des autorités, les organisateurs ont voulu montrer que la femme est au centre de tous les choix.
L'objectif de la Femme Fashion Show, c'est la valorisation de la femme à travers la mode. C'est valoriser la femme et amener la femme à être autonome et amener la femme à vivre dans une vie où elle se sent à l'aise avec ses créations, qu'elle arrive à créer, à produire, et enfin que le public aussi puisse assister en achetant ses créations.
Le mannequin et participants sont aussi venus du Rwanda, Burundi, de l'Europe, des États-Unis et de plusieurs autres villes de la RDC. Pour Jonathan Songolo, les styles qui sont exposés ont captivé son attention. Il plaide pour la multiplicité de ces genres d'événements dans la région.
Alors, il y a une collection qui m'a captivé. C'est une femme qui a utilisé des bâches. Elle avait fait des vestes en bâches et mélangées avec des tissus. Et le thème, c'était conservation de la nature. C'était vraiment magnifique. Il y en a une autre qui avait une sorte, il y avait des ailes et tout ça. En fait, tout ce que j'ai retenu, c'est que les femmes sont aussi créatives que les hommes. Il y a, la créativité n'a pas de genre, en fait.
La Femme Fashion Show a été créée à Bukavu et c'est la première fois qu'elle s'est tenue à Goma. Les organisateurs veulent faire une tournée dans d'autres villes de la RDC, peut-être même faire une fashion show au niveau du continent. Zanem Netizaïti à Goma pour VOA Afrique.
C'est Jeunesse Pouvet.
En Côte d'Ivoire, le projet de travaux à haute intensité de main-d'œuvre ou TIMO, piloté par l'Agence française de développement en collaboration avec l'Agence Emploi Jeune, est une passerelle vouée à réduire la vulnérabilité des personnes sans emploi. Il a permis à beaucoup de jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, créer un petit commerce avec peu de moyens et même embaucher d'autres jeunes. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boïs.
L'agence Emploi Jeune expérimente le projet TIMO dans la ville balnéaire du Grand Bassam à travers l'assainissement des plages et des gares communales. 100 jeunes, dont 72 femmes, sont impliquées dans la phase pilote à Grand Bassam. Jean-Louis Moulot, le maire de la ville.
Je me réjouis que ce partenariat entre la ville de Grand Bassam et le ministère de la promotion de la jeunesse a un contenu concret pour pouvoir ensemble sortir la jeunesse de la pauvreté et du sous-emploi.
Le jeune Joël Okou témoigne de l'expérience qui a changé sa vie.
On embellit notre plage à Grand Bassam. Voyons que nous nettoyons la plage avec un revenu par mois. C'est intéressant. Je voudrais me lancer aussi dans le montage des photos et vidéos.
Valérie Nguesso, une autre bénéficiaire du projet TIMO, elle a investi dans la vente de poissons.
Je vous assure, aujourd'hui je ne les regrette pas. Aujourd'hui ma vie a changé. Aujourd'hui je vis pour tout l'homme. Je dis merci aussi au CDG d'emploi.
Jean-Claude Assi a utilisé ses économies pour se tourner vers le maraîchage.
Quand j'ai commencé, j'étais seul, donc je faisais de la tomate. Donc, mes tomates étaient de bonne qualité et les clients venaient nombreux. Donc, j'ai embauché 3 personnes pour m'aider et étendre ma plantation sur plusieurs périmètres. Et aujourd'hui, comme on a une bonne main d'œuvre maintenant, on a ajouté à la tomate le concombre, le chou et les salades. Et aujourd'hui, grâce à eux, j'arrive à m'occuper de ma famille.
L'Agence française de développement a soutenu le projet et Céline Gratatour, chargée des missions à l'AFD.
Nous sommes extrêmement contents de prolonger en fait cette aventure avec une troisième phase et plus de 80 millions d'euros qui seront dédiés à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire.
Mamadou Touré, ministre de la promotion et de l'insertion des jeunes, se réjouit de cette collaboration et donne des conseils aux jeunes.
Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Vous avez vu les témoignages des jeunes. Certains jeunes peuvent se complexer par rapport à certaines activités. Mais on a vu que les TIMO ont permis à des jeunes qui ont commencé à nettoyer des gares, à nettoyer des plages. Au bout de 6 mois, ces jeunes ont pu collecter des ressources. Et ces jeunes sont juste des entrepreneurs qui eux-mêmes emploient d'autres jeunes.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Pour la sauvegarde du milieu naturel au Togo, des solutions innovantes sont promues comme les foyers améliorés. Économes en énergie et faciles d'usage, ces foyers particuliers sont adaptés aux besoins des populations, notamment rurales, qui utilisent intensivement le bois comme principale source d'énergie. Un reportage d'Amena Signon.
Pratique et simple d'utilisation, ce qu'on appelle un foyer amélioré, permet une cuisson rapide, un gain en énergie et surtout, il est économique. D'après Sylvie, une Togolaise vivant au Gabon.
c'est un foyer qui est vraiment adapté à nos situations économiques. Un foyer qui, en tout cas, qui nous va. Et ça ne salit pas. Je prépare dans la chambre. Tu ne vas même pas voir la moindre cendre. C'est tellement propre, efficace, résistant.
Le modèle qu'elle utilise a la particularité de n'être alimenté que par des résidus de charbon recyclé. Son concepteur est le Togolais Edouard Akakolado. Dénommé Foyeco, son foyer amélioré est issu d'une technologie avancée, comme il l'explique.
Le Foyeco est équipé d'un ventilateur qui remplace l'éventail. Ce ventilateur est alimenté avec un chargeur de 12 watts ou un panneau solaire pour ceux qui sont en milieu rural.
Moins polluant à cause du peu de fumée qu'il dégage lors de la cuisson, les foyers améliorés contribuent à réduire la coupe de bois et la quantité des gaz émis lors de la cuisson, précisément ce qu'on appelle les polluants atmosphériques de courte durée. Ils sont de plus en plus recommandés en lieu et place des foyers traditionnels très gourmands en énergie et qui gaspille beaucoup de bois et de charbon, selon Fontaudi Jérémy, spécialiste en bois, énergie et changement climatique.
Si vous prenez 100 kg de bois, l'énergie que vous tirez dedans, ça fait environ équivalent de 8 kg de bois. Ça veut dire que les 92 kg restants sont gaspillés, sont perdus dans la nature. Il y a des foyers améliorés qui permettent de réduire jusqu'à 50% de la consommation du bois. Donc une fois qu'on réduit la consommation du bois, on est en train de réduire la pression sur les ressources forestières. Ces ressources forestières vont capter le CO2 dans l'atmosphère pour réduire la disponibilité de ce gaz dans l'atmosphère, ce qui constitue un moyen énorme de lutte contre le changement climatique.
Outre les foyers améliorés, il existe d'autres alternatives, comme l'explique Fontaudi Jérémy.
Il y a le charbon écologique qu'on peut produire à partir des déchets, à partir des résidus agricoles et d'autres formes de déchets. On peut utiliser les déchets agricoles pour faire de la pyrolyse, c'est pour produire un peu de l'énergie qui sort sous forme de biogaz.
Efficace et surtout écolo, ces nouvelles approches ont le mérite de contribuer à la préservation des milieux naturels et de lutter contre le réchauffement climatique. Amène à Signon, Lomé pour la VOA.
Entre parenthèses.
Au Tchad, d'anciens membres de Boko Haram qui ont renoncé à la violence et sont relogés dans leur village d'origine vivent dans la précarité. Selon le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, plus de 2544 repentis, dont des femmes et des enfants, ne bénéficient pas d'une politique de réinsertion sociale et constituent une menace pour les populations. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kotmadjingar.
Les enfants sont très nombreux. Au moment où je vous parle, le nombre de ceux qui quittent les Boko Haram pour regagner leur famille, le nombre évolue au fur et à mesure.
Kébir Mahamat Abdoulaye, chercheur associé du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Pour lui, les ex-combattants de Boko Haram, même s'ils vivent dans leur famille d'origine et bénéficient de l'hospitalité de leur entourage, ils constituent toujours une bombe à retardement.
Il y a certains qui n'ont pas de revenus et certains se trouvent aussi dans une situation de traumatisme. Donc, il faut décourager Boko Haram en pardonnant, en réinsérant les engagés Boko Haram dans la vie professionnelle. Et cela peut aussi encourager d'autres combattants qui sont encore sur le territoire de Boko Haram de regagner la légalité.
Docteur Mamadou Mahamat Souleyman, expert du bassin du lac Tchad sur la question de l'extrémisme violent et la gestion de la radicalisation des jeunes natifs de la province du lac, estime qu'il y a manque de volonté politique dans la prise en charge de ces désengagés.
Normalement, à l'image du Nigeria et du Niger, l'État doit créer un centre de réinsertion socio-professionnelle des repentis. Puisque si je prends au Niger, il y a un centre de transit et de réinsertion socio-économique. On amène les désengagés, on apprend un métier et on appuie financièrement les anciens. Mais ce n'est pas le cas au Tchad. Maintenant, ils sont seulement dans la nature, ils sont en train d'errer et il y a une forte probabilité qu'ils repartent, ça constitue une menace.
Pour Abdelkirim Abakar, délégué de l'action sociale dans la province du Lac, ces désengagés bénéficient bel et bien d'un programme de prise en charge initié par le gouvernement tchadien et ses partenaires, notamment l'OIM, Organisation internationale pour les migrations.
Ces repentis, on les maintient dans leur localité
à leur octroi des agères, des activités comme du commerce. Il y a un fonds qui est déjà là pour faire maintenant le projet, pour venir encore les aider. Elles sont plus vulnérables, ces femmes-là. Donc maintenant, il faut les aider pour leur survie.
Ahmad Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, déclare à VOA Afrique qu'il ne croit plus au projet de réinsertion, mais plutôt au projet de développement global.
Ce projet est de 24 activités, dont la construction de 8000 logements, avec un coût d'environ 38 milliards de francs CFA. Je vous rappelle que selon un décompte réalisé par la Cour des comptes française, entre 2012 et 2018, les dépenses dans les pays des G5 Sahel ont plus que doublé, passant de 580 millions d'euros à 1,35 milliard d'euros. Donc si on prend une partie de ces dépenses et on les injecte dans le développement, on aurait évité des soulèvements de genre extrémistes.
La plupart de ces désengagés ont été certes réunifiés dans un village nommé Midikoura, à une vingtaine de kilomètres de Bole, chef-lieu de la province du Lac. André Kodouma Dingar Njamena pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, face aux conséquences néfastes de l'orpaillage sur la population et l'environnement, les universitaires ont décidé de s'intéresser à ce domaine dans un partenariat avec les orpailleurs pour une prise de conscience et une amélioration du secteur. Les détails sur place avec Aïcha Diarra.
Une visite sur le site de la société coopérative Espoir Mining à Diokano dans le département de Toumaudi dans le centre de la Côte d'Ivoire. Universitaires orpailleurs se donnent la main pour tenter de surmonter les difficultés dans ce secteur. Professeur Kwaku Alphonse Yao est directeur de l'école supérieure des mines et de géologie à Yamsoukro.
Notre capacité à fabriquer des appareils qui sont adaptés aux petites mines. Donc ces appareils qu'ils acquièrent de façon chère à l'étranger, avec les problèmes de douane et tout ça à l'arrivée, nous, on peut les fabriquer ici, en grand nombre, à moindre coût, et c'est à leur avantage.
Selon Bomba Zakari, président du syndicat national du groupement des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire, GPMICI, le secteur d'activité de l'orpaillage a depuis longtemps travaillé de façon anarchique et archaïque, sans assistance scientifique, ce qui a constitué le véritable handicap.
C'est ce qui a fait que, effectivement, les manquements que nous avons eus, tels que le déguerpissement, la pratique illicite de l'activité minière en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les certifiés qui ont la connaissance requise pour pouvoir développer ce secteur-là. J'ai dit Dieu merci.
Le programme national de rationalisation de l'orpaillage a été initié en 2013 avec l'objectif de réprimer l'orpaillage illicite et de formaliser le secteur à travers un processus de formation d'artisans miniers par le projet des chantiers écoles. Il fallait trouver des cadres d'échange et de travail entre universitaires et orpailleurs. La dernière rencontre remonte à février 2022 et le thème abordé était la mise en œuvre de stratégies pour une gestion responsable de la petite mine en Côte d'Ivoire. C'était à Yamsoukro, à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le ministre ivoirien des Mines et de l'Énergie, Thomas Akamara.
Cette initiative vient à point nommé pour accroître les possibilités d'assainir le secteur minier à petite échelle et ainsi contribuer à faire de la petite mine l'un des leviers de vitesse du développement du secteur et une source d'espoir inouïe pour la jeunesse qui pourra y trouver des raisons satisfaisantes, suffisantes, de croire en un avenir meilleur.
Aussi, la destruction de l'environnement par l'orpaillage devait être une vieille histoire, selon le professeur Alphonse Kwaku Iyao.
On a des entreprises avec lesquelles on peut interagir pour favoriser la mise en stage de nos étudiants et puis développer certains axes de recherche, notamment sur les problèmes de dépollution, de remédiation sur le sol qui a été pollué ou bien les cours d'eau. Et puis aussi, on prend quelque part notre responsabilité et on les invite à y participer. On prend conscience ensemble de la fragilité des cours d'eau, des sols et des écosystèmes.
Selon le ministre Thomas Camara, 195 autorisations d'exploitants minières ont été signées à ce jour et 12 chantiers écoles ont été installés à travers le pays. Des milliers d'artisans ont été formés et recrutés par des entreprises minières. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!